Bonjour et bienvenue dans Viens vivre ma vie, le podcast de la radio Queer As You qui donne la parole aux personnes LGBTQIA+. Aujourd'hui, nous recevons Eddie Reynaud qui a accepté de venir nous parler d'un guet-apens homophobe, une agression d'une violence extrême dont il a été victime en février 2025. Bonjour Eddie, merci d'avoir accepté notre invitation et de prendre ce temps avec nous.
Bonjour, merci de m'accorder ce temps.
En février 2025, tu as été victime d'un guet-apens homophobe. Cette agression a été largement relayée dans les médias. Malheureusement, les deux agresseurs n'ont pas été retrouvés et la plainte que tu as déposée a été classée sans suite. Aujourd'hui, ici, on ne va pas revenir sur les faits. On va surtout parler de l'après, de ce que ça change, de ce que ça laisse, de la manière dont on continue à vivre après une telle violence. Cet échange s'adresse à celles et ceux qui ont vécu des agressions similaires, à leurs proches et à toutes les personnes qui cherchent à comprendre comment être là sans s'imposer. Merci encore, Eddie, d'être avec nous. Si on met de côté ce qui s'est passé ce soir-là, qu'est-ce qui est encore très présent pour toi ?
Les souffrances psychologiques qui en ont découlé, c'est-à-dire peur de sortir le soir, enfin en tout cas à la tombée de la nuit, en pleine journée, si j'ai des pas derrière moi, enfin des personnes derrière moi, donc en ville, oui, il y a toujours des pas, donc c'est assez compliqué, donc je m'arrête, je laisse passer, je me retourne plusieurs fois, voilà, ou même parfois même, j'évite de prendre les mêmes rues, les mêmes boulevards, les mêmes avenues pour rentrer chez moi. Je pense que c'est un peu de la parano, mais c'est, voilà, c'est ce qui en a découlé depuis.
Est-ce qu'il y a des moments où ton corps réagit sans que tu comprennes tout de suite pourquoi ?
Oui. Généralement, si une personne dans le tram ou enfin, dans la rue, enfin une personne en tout cas, a un geste brusque, ben là, je vais être inquiété. Et donc, la dernière fois, c'était quoi ? Je crois avant-hier. Une personne à l'arrêt de tram a levé le bras. J'ai cru que je me faisais attaquer, j'étais à deux doigts de hurler. Mais ça, en fait, ça prévient pas. Voilà. C'est par période, c'est pas tout le temps. Voilà, bon, c'est pas grand-chose. Voilà. J'arrive à contrôler généralement, mais si je suis surpris, je réagis et ensuite je m'aperçois que c'est rien.
Et comment tu vis avec ce dont tu te souviens et surtout avec ce dont tu ne te souviens pas ?
Je me souviens de m'être fait agresser, que j'ai eu un traumatisme crânien, enfin, des contusions, strangulations et des souffrances psychologiques. Mais ce que je me souviens pas, c'est le après avoir été étranglé et jusqu'à l'asphyxie. Donc j'ai un trou à peu près d'une heure qui ont disparu de ma mémoire. Et je ne sais pas pendant cette heure-là si on ne m'a pas violé, mais en tout cas... Quand je me suis réveillé, j'étais courbé et habillé, mais il peut très bien avoir eu. On a très bien pu, pardon, me faire des attouchements. Voilà. Mais ça, je le saurais pas, jamais.
Est-ce que ne pas tout savoir peut parfois protéger ou au contraire t'inquiéter davantage ?
J'aime beaucoup tout savoir. Je n'aime ni les secrets. Donc j'aime bien savoir et j'aime bien. Savoir me rassure, donc de savoir que je ne pourrais pas savoir, ouais, ça m'inquiète. Après, disons que ce trou de mémoire, enfin, en tout cas, si je n'avais plus de perte de mémoire, j'aurais peut-être pu reconnaître mes agresseurs, c'est ça, et permettre leur arrestation. C'est plus ça qui m'ennuie.
Et quand on te demande aujourd'hui comment tu vas, qu'est-ce que tu réponds ?
Moi, je vais assez bien. Je vais assez bien. Je m'en suis remis assez vite. Après, bon, j'ai des petites séquences, on va dire, auxquelles je souffre. Mais dans l'ensemble, je vais bien. Après, je suis assez résilient et avant tout, je suis militant. C'est ça qui m'a sauvé.
Et est-ce que tu as parfois l'impression qu'on attend de toi que tu ailles mieux ?
Non. Non, et puis je ne suis pas du genre à écouter les autres parce que chaque situation est propre à chacune et chacun. Je trouve que que je m'en sors assez facilement. Enfin, je dirais pas chanceux, mais comparé à d'autres personnes qui ont vécu des situations comme moi, enfin encore plus terribles, moi je trouve que je vais bien, même très bien.
Est-ce qu'il t'est arrivé de te sentir réduit à cette agression ou à ce qu'elle représente ?
Je me dis, à force de témoigner, ben, on va... Oui, on va... Ça va me... Enfin, oui, je vais être réduit à une victime. Enfin, je dirais pas plutôt victime, je dirais combattant. Mais on va se réduire à ça. Mais je trouve que quand on est... Enfin, moi, témoigner, c'est un devoir de citoyen. Donc, si le prix à payer, c'est d'être... une victime ou en tout cas un combattant et à travers ça je puisse enfin continuer à témoigner, donc transmettre une parole et faire changer la peur de camp et aussi dire que enfin, ces sujets-là sont enfin de témoigner ce sont quand même des sujets d'utilité pardon publique, bah c'est le prix à payer, je le paierai, mais je pense que ça en vaut la peine.
Quand on est en couple, on ne traverse pas ça seul. Comment ton fiancé a-t-il vécu l'après ?
Aussi angoissante que moi. Disons que les premiers temps, enfin les premières heures, les premiers jours, les premières semaines, pour la plupart du temps, il m'habillait et il me déshabillait. Ce qui est assez compliqué et gênant. Même pour faire mes lacets, c'était très compliqué. Enfin, pour tout faire. Et comme j'avais du mal à parler et articuler, même une soupe avec une paille, c'était compliqué. Donc c'est assez angoissant pour lui, angoissant pour moi, et puis c'est gênant, tout simplement. Je trouve que l'aide d'une personne, quelle qu'elle soit, hein, là c'était l'homme que j'aime, mais ça aurait été une tante, une grand-mère, une cousine, une nièce, une voisine ou un voisin, j'aurais pris cette aide et enfin, une aide, en tout cas, est toujours la bienvenue, quelle qu'elle soit, et heureusement qu'on est aidé. C'est aussi ça, c'est un devoir de citoyen, ça aussi.
Et est-ce qu'on peut se sentir seul, même quand on est deux, face à tout ça ?
Oui. Oui. Mais ça, je pense que c'est pas forcément propre à une agression, enfin, à une après-agression, je pense que... Disons que la personne avec qui l'on vit... Elle fait son possible, ou en tout cas, elle fait de son mieux. Après, elle est aidante, mais elle n'est ni infirmière, ni médecin. Donc elle fait ce qu'elle peut, voilà. Et après, nous, on s'en accommode. Et puis, c'est aussi gênant quand même, parfois, de se faire aider. Donc voilà, la personne fait ce qu'elle peut et nous, on essaie de faire le reste et parfois, c'est mieux.
Comment tes parents ont-ils vécu ce qui t'est arrivé ?
Je dirais... Je ne suis pas rentré dans les détails et eux n'ont pas posé de questions. Mais en tout cas, j'ai simplement dit que j'ai eu j'étais victime d'un guet-apens homophobe. Donc vraiment, les commentaires de ma famille... oui, j'ai eu leur soutien. Bon, ils étaient loin, donc j'ai eu un soutien de loin. Mais ça ne m'a pas... Ils n'ont pas été intrusifs.
Alors, si quelqu'un nous écoute et a vécu une agression similaire, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ?
Déjà, tout d'abord, bien entendu, déposer plainte. Ça, je pense que c'est primordial. Et juste avant aussi, essayer de... Bon, pas avoir une perte de mémoire, mais en tout cas, essayer de se souvenir de ce qui s'est passé et le noter. Notez à chaque fois que vous allez avoir des souvenirs qui vont vous revenir. Allez déposer plainte. Bon, généralement, si c'est une agression physique, vous allez le faire constater par l'UMJ, l'unité médico-judiciaire. C'est eux qui verront si vous pouvez avoir une ITT et interruption temporaire de travail. Et ensuite, l'enquête devrait commencer. De votre côté, je vous conseillerais de vous faire aider par un psychologue. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu deux psychologues dans les 3 premiers jours, 5 jours après l'agression. Ça m'a beaucoup aidé. Et ensuite, là, il y aura un long travail de réparation. Prenez votre temps. Votre temps. Mais quoi qu'il arrive, continuez à sortir. Enfin, ne restez pas chez vous. Enfin, la peur de changer de camp, c'est pour ça aussi que je témoigne. Donc, ne vous priez pas de sortir. Bon, vous allez peut-être... Moi, j'ai eu très peur, mais vous pouvez sortir peut-être 15 à 20 minutes par jour pour vous aérer. Enfin, ne vous... Voilà, restez pas chez vous. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Sortez 15 à 20 minutes par jour, en tout cas les premiers jours, même si je boitais, j'avais mal au coccyx. Et voilà, et continuez à voir vos amis. Enfin, ne vous... ne vous tairez pas chez vous. Voilà. Même prendre un café, aller déjeuner, enfin, de voir enfin, que la vie continue. Je pense que ça peut aider. Et puis surtout, dès que vous, enfin, oui, faites-vous aider et continuez à sortir. Mais je tiens à préciser que pour les personnes en tout cas qui ont soit été témoins ou en tout cas leurs amis, enfants, cousins, nièces qui ont vécu une telle agression, comment en fait on peut les aider? Tout simplement en leur disant ben voilà, je suis là, lorsque tu auras besoin on peut se voir, on peut s'écrire, on peut s'appeler, mais en tout cas de savoir que la personne peut avoir un aidant, un soutien, même de loin, hein, même à distance, c'est toujours rassurant et c'est puissant.
Toi, finalement, est-ce que tu as l'impression d'être redevenu Eddy d'avant ou est-ce que c'est un autre Eddy maintenant?
Enfin, je ne serai plus jamais pareil. Je vais devoir vivre avec cette peur, même si elle est quand même modérée. Cette peur, je vais continuer à vivre, hein, mais je suis en état d'alerte. Pas forcément permanent, mais en tout cas, je suis en état d'alerte. Voilà. Vous voyez, sur une échelle de 1 à 10, je suis angoissé à hauteur de 5. Voilà. Donc, ça va, c'est... Voilà. Oui, il y a un avant, il y a un après, mais je suis là, je suis encore en vie. C'est l'essentiel. Voilà. Je pense que c'est la vie. C'est, je dirais pas que ça devait arriver, mais en tout cas, c'est arrivé. Ok, mais il faut avancer. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis, faut pas oublier que j'ai l'essence de l'engagement. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que je suis ici. C'est pour transmettre mon témoignage, transmettre une parole. Et donc, il faut que la parole circule et en faisant circuler ma parole, je vais déjà mieux.
Et alors, quand tu penses à ce qui pourrait éviter ce genre de violence, qu'est-ce qui te semble essentiel pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour empêcher tout ça?
Des campagnes de sensibilisation, pas forcément pendant la semaine du 17 mai, la journée internationale contre les LGBTI-phobies, donc en gros pour les discriminations de haine anti-LGBTI, parce que c'est comme ça que c'est le terme juridique, des campagnes de sensibilisation nationales mais aussi locales, pour prévenir sur le guet-apens, mais homophobe, mais aussi sur les applications de rencontres comme Grindr, Tinder, tout type de sites de rencontres. Quand je dis rencontres, hein, c'est pas forcément des rencontres à caractère sexuel, hein, ça peut être romantique, ça peut être amical, enfin toutes sortes. Et donc là, sur ces sites-là, les sites peuvent enfin héberger des campagnes de sensibilisation, voilà, pour prévenir. Attention, il y a eu voilà, des guet-apens en France dans l'année, voilà, enfin prévenir en tout cas leurs utilisateurs, pardon, sur le fait qu'il y a des guet-apens et qu'ils sont de plus en plus nombreux et qu'il faut faire très attention, voilà.
Alors, la plainte que tu as déposée a été classée sans suite, faute d'éléments permettant de retrouver tes agresseurs.
Oui.
De là, d'une injustice que cela représente, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? De la colère ? Un sentiment d'impunité ? Quelque chose d'autre ?
On finira par les retrouver. Disons que je crois en la justice de notre pays, même si la justice est lente, je trouve que... On avance, enfin, les sujets sont traités et comme la justice avance régulièrement, les affaires, notamment traitant de l'homophobie, aboutissent. On finira par les retrouver. C'est juste une question de temps. En attendant, témoignons. Et protégeons-nous.
Et donc,
protégez-vous.
Et si tu avais un message à adresser à ceux qui ont commis ce genre de violence, qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui ? À tes agresseurs ?
Qu'ils sont trompés de personnes, enfin de victimes. Enfin, en tout cas, ils ont pris la mauvaise personne parce que ils pensaient me faire taire. Enfin, faire taire les personnes LGBT, donc c'est-à-dire que, je pense qu'ils pensaient que nous étions des personnes faibles, des personnes qui peut-être n'ont pas le courage de déposer plainte. En fait, c'est tout le contraire, on est très fort. Et pour ma peine, je ne me cache absolument pas, et en plus je témoigne à visage découvert. Donc voilà, je pense que la prochaine fois, au lieu d'agresser des personnes, il ferait mieux plutôt de se sensibiliser justement et tout type d'agression, hein, que ce soit homophobe, transphobe, soit sur le racisme, l'antisémitisme. Je trouve que agresser une personne, c'est vraiment lâche. C'est lâche et ça n'a rien à faire dans une république, surtout la République française. Voilà. Et pour être encore plus précis, sur la planète Terre, en fait, je trouve qu'il n'y a aucun intérêt de faire ça. Et je trouve qu'on est censé bien vivre ensemble. Enfin, et je trouve que vraiment, ce n'est pas la définition du bien vivre ensemble. Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire dessus. Donc, voilà, j'ai vraiment espoir que ces personnes un jour comprennent que en voulant s'attaquer à des personnes, en fait c'est à eux qu'ils se font du mal, puisque finalement, en tout cas, je vais parler pour moi je vais bien, et si eux m'ont attaqué, c'est que ils vont plutôt mal, et j'en suis vraiment désolé pour eux.
Eddy, tu es très impliqué dans la défense et la reconnaissance des droits des personnes LGBTQIA+, contre l'LGBTphobie. Qu'est-ce que cette agression a changé dans ta manière de t'engager ?
Plus jeune, je voulais faire partie de ceux qui embellissent le monde. Donc, c'était mes mots de l'époque. Et je pense que j'ai... en tout cas, que j'ai apporté j'ai commencé à embellir. J'ai encore un long travail, un long parcours, une longue route à faire, mais je suis sur la bonne voie. Et mon travail n'est pas encore fini.
Est-ce qu'il t'est arrivé de ressentir le besoin de te protéger davantage, même dans les espaces militants ?
Non, pas du tout. En fait, Après l'agression, j'ai pas ressenti le besoin de me protéger tout court. En fait, c'était plutôt... Enfin, rien n'a vraiment changé, en fait, pour ça. Oui, je me sens un peu plus en danger qu'avant, mais je ne me protège pas autant. Enfin, je continue à avoir, je veux dire, une protection ambiante. Enfin, je sais pas plus de protection que ça. Voilà.
Et est-ce qu'on peut militer et avoir besoin de s'arrêter?
Oui, c'est possible. Juste si on n'est plus en adéquation avec, avec les valeurs d'une association ou d'une fondation. Enfin, on n'est plus en adéquation. Et puis aussi, s'arrêter, c'est aussi mûrir sa réflexion pour des nouveaux projets. Moi, c'est pas mon cas. Je suis toujours en phase de réflexion et j'ai encore beaucoup de projets à mettre en place. Donc, que ce soit, beaucoup de projets à mettre en place dans tout type d'associations ou de fondations. Donc, plus globalement, je pense que c'est ensemble, en étant solidaire, qu'on peut faire avancer le monde. Une ville, un département, une région. Donc, voilà, ensemble, on est toujours plus fort.
Du coup, là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce qui t'aide à tenir ?
Le militantisme, le devoir, l'engagement. Oui, le devoir, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. C'est aussi la maîtrise, l'accomplissement, le fait de se dire que oui, c'est une des missions d'un citoyen. Enfin voilà, le devoir a quelque chose d'important chez moi. Oui, voilà.
Ben Eddy, merci. Merci pour ta parole, merci pour ta confiance, pour ce que tu as accepté de livrer ici aujourd'hui. Parler de l'après, de ce qu'on ne voit pas, de ce qui reste quand les micros s'éteignent, c'est précieux et c'est jamais anodin. Merci aussi pour ton engagement, celui d'avant et celui qui, d'une manière ou d'une autre, continue d'exister aujourd'hui. Avant de se quitter, il me semble important de rappeler une chose très claire. Les agressions LGBTQIA-phobes sont des délits. Lorsqu'une personne est ciblée parce qu'elle est homosexuelle ou perçue comme telle, peu importe que ce soit par haine, par préjugé ou pour toute autre raison, la loi considère cela comme une circonstance aggravante. Ce n'est ni un fait divers, ni un malentendu, ni une zone grise. Nous appelons aussi les applications de rencontres à prendre pleinement leurs responsabilités, à être plus vigilantes, à mettre en place de véritables dispositifs d'alerte, d'information, de prévention pour les utilisatrices et utilisateurs, à rappeler clairement la loi et ses conséquences à celles et ceux qui s'en affranchissent, et surtout, à ne jamais faire obstacle aux enquêtes judiciaires. Lorsque toute la justice le demande, les plateformes doivent fournir sans délai les informations essentielles, notamment les adresses IP permettant d'identifier et de poursuivre les agresseurs et agresseuses présumées. C'est une obligation légale et c'est une responsabilité morale. Enfin, à toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont été agressées ou qui vivent avec cette peur, vous n'êtes pas seuls, vous êtes des victimes et ce n'est pas de votre faute, en aucun cas. Les associations sont là pour écouter, pour accompagner, pour soutenir sur le plan humain, juridiquement et psychologique. Parler demande de l'aide, prendre du temps, se reconstruire à son rythme est légitime. Et parfois, le simple fait d'être cru est déjà un premier pas. Et n'oubliez pas que l'association SOS Homophobie a mis en place une ligne d'écoute anonyme et gratuite. Elle est accessible au 01 48 06 42 41, 01 48 06 42 41. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé à mieux comprendre les violences d'une agression LGBTQIA-phobe, mais aussi ce qui reste après, les traces invisibles, les silences, les peurs et le long chemin vers la reconstruction. Ce chemin, même difficile, est possible. Il peut se parcourir avec le soutien des proches, des amis et des associations. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Prenez soin de vous, prenez soin les unes les uns des autres. On se retrouve très bientôt sur la radio Queerazio pour un nouvel épisode de Bien vivre ma vie.